J'ai travaillé pendant 10 ans à Radio Omega en tant qu'animateur radio. Et puis après, j'ai arrêté, j'en profite pour donner quelques nouvelles. J'ai arrêté et j'ai commencé à travailler au SEL il y a presque 3 ans maintenant. Et je suis responsable communication au SEL. Le SEL, c'est une organisation non gouvernementale, une association chrétienne. Le slogan du SEL, c'est une action chrétienne dans un monde en détresse.
Oui, ben merci de nous avoir invités. On a donc été conviés pour vous partager un voyage qu'on a eu l'occasion de faire en début d'année avec le SEL, où j'ai été invitée en tant que bénévole au SEL.
Alors, pour introduire finalement, on vient ici pour vous parler du corps de Christ. Le centre de ce qu'on veut vous partager, c'est le corps de Christ. Et je réalise finalement, en étant devant vous ce matin, que on le vit aussi en étant. Nous, on est à la prairie, mais en fait, on est à la prairie parce que c'est comme ça et on habite près. Voilà. Mais en fait, on fait corps avec vous. On s'en rend bien compte, il y a tellement de résonance quand on vient dans une église. On ne connaît pas forcément les frères et sœurs, mais il y a une résonance forte. Et c'est un peu ce qu'on va vous raconter ce matin. Je vous propose une petite méditation pour commencer, qui va nous introduire pour une courte présentation du SEL, puis notre voyage au Honduras. Le mot justice est un mot compliqué à définir et sensible à discuter. L'une des premières phrases qu'un enfant apprend à prononcer est « c'est pas juste ». Elle représente davantage un cri spontané qu'une analyse réfléchie, qu'il serait possible de discuter sereinement, et c'est vrai aussi avec les adultes. Lorsque l'on s'intéresse au sujet de la pauvreté et surtout aux personnes qui vivent dans la pauvreté, on en arrive forcément, ou on commence parfois, à parler en termes de justice. C'est aussi le cas dans la Bible. Alors essayons d'aborder ce sujet progressivement. Dans la Bible, la justice se caractérise par un lien avec la pratique. La justice, ça se pratique. Ce que Dieu demande de toi, ce que tu pratiques, c'est que tu pratiques la justice, dit Michée 6,8. Et je vous propose maintenant d'écouter le partage de deux passages bibliques.
Donc dans Michée 6, versets 6 à 8, avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu Très-Haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et dans Psaume 15, versets 1 et 2, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur.
C'est des versets très forts. J'aime énormément ce verset, ces versets de Michée. Ce que Dieu demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Le juste est celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Face à la pauvreté, la question n'est pas purement et simplement la justice, mais la pratique de la justice. Quelle est la différence? Pratiquer la justice, c'est quelque chose de concret et même de terre à terre. La justice se vit dans mes actes les plus petits comme dans mes décisions les plus importantes. La justice, ce n'est pas d'abord un grand projet ou un grand programme à réaliser. Il ne s'agit pas d'abord d'établir la justice, de rendre le monde juste, mais de pratiquer la justice. En quoi consiste donc cette justice qu'il faut pratiquer? Tout simplement dans l'accomplissement des commandements de Dieu. Pour nous, la justice sera d'observer et de mettre en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a commandé. C'est Deutéronome 6, 25. Le lien entre le souci des pauvres et le thème de la justice sera donc à rechercher dans les commandements de Dieu. La justice que Dieu nous appelle à pratiquer consiste à accomplir ses commandements. Or, ces commandements concernent l'ensemble de notre vie. Nous pouvons lire dans Ézéchiel 18, 5 à 9 le portrait de celui qui est juste, qui pratique le droit et la justice.
Voici un homme qui est juste et qui agit avec droiture et selon la justice. Il ne participe pas au repas de sacrifice sur les montagnes et ne tourne pas les regards vers les idoles de la communauté d'Israël. Il ne déshonore pas la femme d'un autre. Il n'exploite personne. Il restitue son gage à celui qui lui a emprunté de l'argent. Il ne commet pas de vol. Il donne son pain à celui qui a faim et des vêtements à celui qui n'en a pas. Il ne prête pas à un taux usuraire et ne retient pas d'intérêt. Il évite de faire du mal et, s'il doit arbitrer entre un homme et un autre, il rend un jugement selon la vérité. Il vit en accord avec mes lois et obéit à mes commandements pour agir loyalement. Un tel homme est juste et il vivra, le Seigneur, l'Éternel, le déclare.
La pratique de la justice ne se limite pas à des questions liées à la pauvreté. Refuser l'idolâtrie ou être fidèle à son conjoint, c'est aussi une question de justice. Nous sommes appelés à refléter quelque chose de Dieu qui s'est révélé à nous en Jésus, dans tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous faisons. C'est ce que le Nouveau Testament appelle chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Cependant, dans la liste qu'on vient de lire dans Ézéchiel, sur la pratique de la justice, les questions liées à la pauvreté prennent beaucoup de place. Il est question de donner son pain à celui qui a faim, de couvrir d'un vêtement celui qui est nu, mais n'exploiter personne a une application particulière aux plus faibles et aux plus pauvres, parce qu'on exploite moins souvent le fort et le riche. Rendre son gage au débiteur concerne aussi des personnes qui vivent dans la pauvreté et à qui on avait fait un prêt et qui devaient laisser leurs vêtements en gage. La loi de Moïse ordonnait de leur rendre leurs vêtements pour la nuit. On lit ça dans Exode. Ne pas prêter à intérêt et ne pas tirer d'usure, qu'on vient de lire avant, concerne certainement prioritairement, voire exclusivement, les prêts faits à des personnes dans le besoin. Alors pourquoi les questions de pauvreté ont-elles une place particulière lorsque l'on parle de pratiquer la justice ? Tout simplement parce que le pauvre est davantage vulnérable à l'injustice et qu'il faut donc lui accorder une attention particulière. Plus encore, Ézéchiel nous montre qu'être généreux ou solidaire est une question de justice. Ça évite l'orgueil aussi. C'est pas regarder comme je donne, c'est juste faire justice. Donner son pain à celui qui a faim et couvrir d'un vêtement celui qui est nu, c'est un élément de la liste pratiquer le droit et la justice. Cela nous montre que la justice se vit dans les relations interpersonnelles, à échelle humaine, dans les petites comme dans les grandes choses. Ce que je viens de vous lire là, c'est pas moi qui l'ai préparé, mais il y a une résonance forte. C'est quelque chose qui est travaillé par Daniel Hillion, qui est directeur des études au CEL. Et voilà comment travaille le CEL. Il y a un directeur des études qui travaille la parole de Dieu et nos actions découlent de ce travail avec la parole de Dieu. Alors, pour ceux qui ont l'application YouVersion, il y a le CEL qui publie sur cette application. Et ce que je vous ai lu là, c'est les deux premiers jours d'un plan du CEL. Il y en a plusieurs, il y en a une dizaine ou une douzaine, et on les alimente régulièrement. Donc je vous encourage vraiment à suivre si vous vous intéressez aux questions des plus vulnérables. Et avec ce que je viens de dire, normalement, vous vous intéressez tous aux questions de l'aide aux plus vulnérables.
Voilà, on va donc enchaîner avec la présentation de notre voyage. Donc nous sommes partis au Honduras en février de cette année. Donc je suis partie avec Jean-Philippe, on est un groupe de 6 du CEL. Donc, un petit topo sur ce qu'est le CEL. Donc, c'est une association protestante qui a 46 ans de solidarité internationale qui cherche à améliorer les conditions de vie dans les pays en situation de pauvreté. Donc, la lutte contre la pauvreté est au centre des missions du CEL.
Alors, l'engagement du CEL, ça se fonde... Le CEL, ça date des... On le date à 1980, mais en réalité, c'est les chrétiens évangéliques dans les années 70 On commençait à écrire à l'Alliance évangélique en disant on est heurté par ce qui se passe à tel endroit. On voit à la télé, il y a eu tel séisme, telle sécheresse, tel massacre. On voudrait faire quelque chose. Donc, ils commençaient à envoyer de l'argent à l'Alliance évangélique qui a dit bon, ben, faut qu'on fasse un petit service qui aiderait, qui serait consacré à cette question-là. Puis ce petit service est devenu un peu plus gros, puis un peu plus gros. Puis on s'est dit ben, faut faire une association. Et l'association, c'est le CEL, c'est depuis 1980. Et l'idée, c'est donc un engagement chrétien. On s'assume complètement comme association chrétienne. On ne reçoit pas de subvention pour aussi avoir les mains libres pour être pleinement chrétien et pleinement association d'aide aux plus vulnérables. Responsable dans le sens, nous sommes responsables de ce que nous faisons, mais aussi les gens qu'on va aider, on tient à ce qu'ils soient responsables eux-mêmes de ce qu'ils font. De lutte contre la pauvreté, et puis avec des partenaires locaux. L'idée de partenaires locaux, ça part du fait que un commandement qu'on trouve essentiel, enfin que tout chrétien trouve essentiel, c'est « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et dans la notion de « tu aimeras ton prochain comme toi-même », il y a le terme « prochain » qui est donc lié à la proximité. Donc on dit, pourquoi aider des gens à l'autre bout du monde alors qu'il y a tellement de misère en France? Parce que l'idée du sel, c'est la notion du corps de Christ. C'est-à-dire que, oui, nous sommes d'accord avec l'idée d'aimer notre prochain, ça veut dire que les gens qui nous entourent, on doit les aimer. Qu'ils soient ennemis de Dieu ou qu'ils soient nos frères et sœurs, on a pour devoir de les aimer. Par contre, les chrétiens à l'autre bout du monde, c'est le corps de Christ, c'est nos frères et sœurs, c'est notre corps aussi. Et donc, l'idée, c'est comment on va aider nos frères et sœurs à eux aimer leur prochain. Et donc, de ça découle une notion importante, c'est que le sel n'envoie pas d'expatriés à l'étranger, puisque nous, on est chargés d'aimer nos prochains ici en France. Mais par contre, nos frères et sœurs, ils ont besoin d'aide pour aimer leurs prochains, eux aussi. Parce que eux, ils ont le Saint-Esprit aussi. Ils ont des idées aussi. Ils ont une connaissance des gens qui les entourent. Et ils ont de l'énergie. On va le voir avec ce qu'on va raconter sur le Honduras. Mais il y a des frères et sœurs dans les pays les plus pauvres qui, malheureusement, n'ont pas les moyens d'aider leurs prochains ou pas même les moyens de survivre eux-mêmes. Donc notre travail au CEL, c'est d'aider nos frères et sœurs à eux aimer leur prochain. Alors ça paraît être un grand discours, mais c'est pas un grand discours, c'est vraiment dans l'ADN du CEL, les Français, les chrétiens français ne savent pas mieux que les chrétiens honduriens comment aimer leur prochain. C'est les chrétiens honduriens qui savent mieux que nous, mais nous par contre on va les aider.
Donc le CEL a plusieurs missions, le parrainage des enfants, dont on va parler plus spécifiquement ce matin, des projets humanitaires, donc en termes d'accès aux soins, d'accès à de l'eau potable, de l'aide pour de l'insertion économique, de la sensibilisation, c'est-à-dire pouvoir parler de la lutte contre la pauvreté aux chrétiens en France, c'est de la sensibilisation. Et ils ont aussi des choses plus ponctuelles au niveau des crises, voilà, quand il y a une urgence, un sinistre, voilà. Il y a des aides spécifiques au moment de crise.
Alors les chiffres malheureusement sont en baisse depuis qu'on a fait le diaporama. Les enfants parrainés, c'est malheureusement en baisse depuis un an, on va dire. On est maintenant à 11 200 et quelques. Donc 11 200 enfants parrainés, c'est les chrétiens évangéliques français parrainent 11 200 enfants dans 26 pays. Ça paraît un gros chiffre, mais si on en croit les chiffres de l'Église évangélique en France, on est entre 1,2 million et 1,6 million chrétiens évangéliques français. Et finalement, dans les pays occidentaux qui travaillent avec compassion, puisque nous, on travaille avec compassion, la France n'est pas vraiment un pays qui finalement est tant que ça. Donc, il y a encore 250 000 enfants à parrainer dans le monde. Donc 11 400, c'est super, 11 200, c'est super, et on est très reconnaissant pour ces 11 200, mais on a encore un grand travail à faire en France pour pouvoir aider en profondeur ces enfants partout dans le monde. 170 000 bénéficiaires des projets de développement, ça c'est en Afrique subsaharienne, 13 400 donateurs. On est hyper reconnaissant pour ces 13 400 donateurs. Chacun des dons et chacun des mots qui accompagnent parfois ces dons sont un vrai encouragement pour l'équipe du CEL. 230 bénévoles, 110 délégués, 78 traducteurs. C'est trop peu, 78 traducteurs, on va comprendre pourquoi après. Les délégués, ce sont des représentants du CEL dans leurs églises. Si vous avez à cœur le CEL, vous pouvez venir me voir à la fin et vous pouvez dire, moi je veux bien relayer ici à Popin les infos du CEL et vous deviendrez délégué du CEL. 26 000 followers, alors ça paraît un peu... c'est dans notre époque, followers, oui, c'est bien pour les réseaux sociaux, tout ça. Mais en fait, c'est pas rien, parce que on s'informe énormément, on passe énormément d'heures à regarder des médias non chrétiens, et c'est bien de s'informer. Les associations comme le CEL, MEDER, Portes Ouvertes, ont des gens qui sont des chrétiens sur place, où eux, ils voient ce qui se passe réellement. Et ils nous rapportent, et on va en reparler pour le CEL, ils nous apportent des informations qui sont des informations vraies et qui sont directement du terrain. Donc nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est un engagement finalement. C'est pas juste je vais passer un peu de temps pour m'occuper, c'est je vais m'intéresser à ce que mes frères et sœurs font ailleurs. Et on va voir une petite vidéo qui présente le Honduras dans quelques secondes. C'est ce type de contenu que vous pouvez retrouver sur les réseaux du CEL. Et 29 salariés. Il y a une partie, moi je travaille dans le service communication et sensibilisation, c'est un petit service, mais il y a deux autres gros services qui sont consacrés au parrainage et au projet de développement.
Donc un tout petit focus sur le parrainage qui est notre sujet. Donc le parrainage d'enfants permet à un enfant d'accéder à plein de choses. Du soutien scolaire, un enseignement chrétien, un suivi médical, des repas, et d'accéder aussi à des activités socio-culturelles. On en reparlera après. L'idée, c'est que ces enfants soient accueillis dans des centres, qui sont un peu comme des centres sociaux ou des centres aérés. Lorsqu'ils sont parrainés, ils ont le droit d'accéder à ces centres. Et du coup, dans ces centres, ils bénéficient de tout ce qu'on s'est dit là. C'est des enfants qui vivent chez eux, hein, qui ont une famille, qui rentrent chez eux pour dormir, pour vivre, mais qui peuvent accéder dans la semaine plusieurs fois à ces centres pour bénéficier de toutes ces aides. Du coup, on demande aux parrains marraines trois engagements.
On ne communique pas en dehors du milieu chrétien. Donc, on recherche des chrétiens évangéliques, en fait. C'est pas qu'on ait quelque chose contre les autres chrétiens, mais c'est juste pour la résonance. On est issu de l'Alliance évangélique et aujourd'hui, il y a deux sièges au CEL qui sont réservés au CNEF. Et l'idée, c'est mobiliser les évangéliques français pour prier. Donc, les parrains, on leur demande de prier pour leurs filleuls, de leur écrire. On met souvent en avant l'échange de courrier, mais c'est surtout ce que vous allez dire à l'enfant qui pourra être une source d'encouragement et une bénédiction pour lui. Et puis, donner 32 euros par mois pour pouvoir avoir accès à ce qu'on vient de présenter avant.
Donc, le CEL organise des voyages au niveau du parrainage comme des projets. Et donc, on va vous parler du Honduras. Une courte vidéo.
Le Honduras est un petit pays d'Amérique centrale avec pour capitale Tegucigalpa. Il dispose de deux façades maritimes avec au nord la mer des Caraïbes et au sud-ouest l'océan Pacifique. La barrière de corail mésoaméricaine qui frôle ses côtes est la deuxième plus grande au monde. Elle s'étend sur plus de 1000 km. Malheureusement, le Honduras reste l'un des pays les plus pauvres d'Amérique latine. En effet, 62,9% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Et environ 14% vit dans l'extrême pauvreté avec moins de 2,15 $ par jour. Le pays a aussi subi de nombreux coups d'État et tentatives de coups d'État, ce qui a créé une instabilité et rend encore plus difficile le recul de la pauvreté.
Voilà, donc nous avons eu l'occasion de partir au mois de février, avec une équipe de des salariés et d'autres responsables et directeurs du CEL. Donc voilà, petite présentation du Honduras. Avant d'y aller, Jean-Philippe et moi ne savions pas où c'était. C'est pas un pays dont on parle forcément beaucoup. Et c'est loin. C'est loin. Il n'y a pas de vol direct France-Honduras parce que, on le verra, il n'y a pas beaucoup de tourisme. Voilà. Donc on l'a vu, hein, c'est un pays vraiment pauvre, avec une population majoritaire qui vit en deçà du seuil de pauvreté. Et c'est un pays qui est marqué aussi par une forte criminalité. Alors, comme dans beaucoup de pays d'Amérique latine, mais le Honduras est un des pays les plus insécuritaires actuellement au niveau de l'Amérique latine et centrale, notamment par une présence de gangs qui s'appellent les Maras, qu'on voit sur la photo en bas à gauche. Donc, les gangs, ils sont vraiment répartis partout dans le pays. Ils se reconnaissent et ils s'identifient entre eux par des tatouages. Et ça explique beaucoup de criminalité, de braquage. Il y a beaucoup d'armement aussi. Et en fait, quel que soit l'endroit où on vit, au Honduras, on peut être concerné. On a eu l'occasion dans notre semaine de parler avec beaucoup de personnes qui vivent là-bas et elles se sont déjà toutes faites braquer plusieurs fois. C'est presque habituel. Et la religion officielle, c'est le christianisme. Donc il y a beaucoup, beaucoup de panneaux, comme on voit en bas, dans tout le pays, avec des versets bibliques. Des panneaux immenses quand on sort de l'aéroport, quand on arrive dans les villes, avec des versets bibliques. Et on a aussi vu beaucoup d'églises.
Notre premier jour, notre séjour était bien fait parce que notre premier jour, on a commencé par visiter le Centre National de Compassion. Donc Compassion, c'est l'organisme avec lequel travaille le CEL pour le parrainage d'enfants. Et dans chaque pays dont l'extrême pauvreté touche le pays, il y a un centre Compassion. Et ce centre permet de gérer les centres de développement qui, eux, sont répartis sur tout le pays. Il y en a 150 et quelques sur le pays. Ça, c'était lundi pour nous.
Donc, on a visité les locaux. C'est des structures, Compassion, c'est une structure vraiment très solide avec plusieurs corps de métier. Ils travaillent notamment au niveau de la protection de l'enfance. Ils ont des juristes, ils ont des pasteurs, ils ont toute la partie DRH et des éducateurs et des animateurs. Donc, juste pour rappeler, les centres de développement, donc ça s'appelle Centre de développement de l'enfance et de la jeunesse, ils sont portés par une église. L'idée, c'est vraiment qu'une église est implantée dans un quartier. Elle se dit, oh là là, on aimerait bien faire quelque chose pour les enfants. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ils construisent des locaux où ils commencent à accueillir des enfants dans leurs propres locaux. Et ensuite, ils proposent leur candidature à Compassion pour dire, voilà, on aimerait pouvoir accueillir des enfants qui soient parrainés. Compassion va visiter, voit si ça correspond à la structure de ce que pourrait être un centre de développement et les accompagne pour la mise en place. Et ensuite, il est demandé aux chrétiens d'identifier, de donner un petit peu un profil des familles les plus pauvres autour de chez eux pour pouvoir proposer le parrainage à un des enfants de cette famille. Et donc, les dossiers qu'on apporte ou quand Jean-Philippe dit qu'il y a des enfants en attente de parrainage, c'est ça. C'est des enfants qui sont identifiés par les chrétiens locaux comme faisant partie des familles les plus pauvres autour de l'église. Et quand un enfant est parrainé, le dossier est envoyé à Compassion, la somme de 32 euros est versée tous les mois, elle est reversée au centre et le centre, du coup, a les moyens pour faire tout ce qu'on a vu avant par rapport aux besoins des enfants. Donc, il y en a 155, effectivement, sur le Honduras.
Alors que c'est un tout petit pays, hein. 155, ça paraît beaucoup, mais finalement, il y a des pays beaucoup plus grands où il y en a beaucoup plus encore.
Et les centres qu'on a visités, en moyenne, accueillent entre 400 et 500 enfants. Donc, c'est pas des petits centres, hein. C'est quand même des grosses structures.
Alors, maintenant qu'on sait ce qu'est un centre de développement de l'enfant et du jeune, c'est donc un centre adossé à une église. Et ces églises-là, elles sont implantées en plein milieu des villes les plus pauvres, dans les quartiers les plus pauvres et souvent les plus dangereux. Jamais on est allé dans un quartier sans, avant de rentrer dans le quartier, s'arrêter, faire rentrer quelqu'un dans la voiture qui est du quartier et continuer notre route parce que c'était trop dangereux de rentrer dans ces quartiers-là sans accompagnement.
Et on n'allait pas se balader, hein. C'était, voilà, on arrivait devant le centre, le van ouvrait ses portes, on rentrait dans le centre, les portes se refermaient derrière nous. On a vraiment senti ce climat très, très insécuritaire en permanence. Il y a plusieurs actions dans ces centres. Donc, nous, on a visité aussi des centres qui proposent déjà des actions pour les femmes enceintes et leurs bébés de 0 à 1 an. L'idée étant de entourer, même avant que le bébé soit là, déjà la femme enceinte et lui permettre d'avoir accès à des repas, à des soins médicaux dès sa grossesse et que ça perdure pour la première année de vie du bébé. Donc, on a vu beaucoup de choses qui étaient organisées. c'est dans ce sens-là, des ateliers de psychomotricité pour éduquer les parents à faire bouger leurs enfants. Et c'était des exercices qui étaient vraiment applicables dans des tout petits logements. C'était très intéressant de voir comment ils s'organisaient. Le suivi médical qui est assuré, donc avec la pesée, un pédiatre qui vient tous les mois dans les centres pour faire le suivi des enfants. Et ça s'accompagne aussi pour ces femmes d'une possibilité de formation professionnelle, l'idée étant qu'elles puissent subvenir à leurs propres besoins et apprendre un métier qu'elles puissent faire avec leur bébé sur les genoux ou dans le cosy à côté d'elles.
Le parrainage d'enfants, donc les centres survival, c'est comme ça que ça s'appelle, c'était pas accessible avec le CEL jusqu'à maintenant parce qu'on n'avait jamais visité de centre, on voulait voir comment ça se passait avant, et une des raisons de notre voyage c'était aussi pour visiter ces centres, voir comment ça se passait, pour voir si le CEL allait proposer cet accompagnement des mamans avec les tout petits enfants. Le parrainage entre guillemets traditionnel, c'est de 3 à 18 ans. En réalité, c'est de 3 à 21 ans. Je sais pas pourquoi c'est marqué 18 là. Mmh. 3 à 21 ans. Ça peut s'arrêter effectivement à 18 ans suivant le pays parce que ils peuvent travailler à 18 ans, donc il n'y a plus de raison d'accompagner au-delà. Donc c'est l'idée de donner de la nourriture et on a vu que c'était pas rien la nourriture parce que on n'en a pas parlé, mais il y a dans les enfants ou dans les bénéficiaires ou anciens bénéficiaires du parrainage que moi j'ai rencontré depuis que je travaille au CEL, il y a des enfants qui vivaient dans un foyer où on avait un œuf pour cinq par jour pour manger. Donc la nourriture, c'est évidemment quelque chose de central. L'enseignement biblique, les jeux et l'accès aux toilettes. J'ai dit que notre séjour était bien fait quand je vous ai parlé de la visite du centre de compassion le lundi. Parce que c'était pour nous vous allez le voir, peut-être que vous allez le vivre comme ça, comme on le raconte, mais un espèce d'entonnoir, un tunnel où on commence par ce qui est regardable, et puis plus on avance dans le séjour, plus on s'approche de la misère, mais du coup ça nous prépare tranquillement, donc on va dans les centres de développement qui sont pas fortunés, mais qui où on voit de la joie, les enfants qui jouent, qui rient, et des enfants, j'allais dire normaux comme chez nous, et puis après ces centres de développement, on a été visiter des familles. Donc ça, c'est ce qu'on a vu, hein, les activités bibliques, bricolage. Donc ça ressemblait vraiment à une école du dimanche, sauf que c'est à une échelle très importante, puisqu'on parle de 400 enfants dans un centre, avec des bénévoles de l'église, des salariés ou des bénévoles de l'église qui se démènent, mais ils ont une énergie incroyable. Et c'est pour ça que j'utilisais aussi la rencontre avec le corps de Christ, parce que on s'est toujours senti comme on est chez vous là, des frères et des sœurs, et qui se démènent, qui on voit qu'ils connaissent tous les enfants alors qu'il y en a un grand nombre qui se démènent pour donner proposer toutes les activités aux enfants.
Sur les photos là du bas, on a visité un centre qui avait vraiment comme priorité de proposer des formations professionnelles aux jeunes. Il nous racontait que les gangs, ils recrutent beaucoup chez les adolescents. À partir de 13-14 ans, les ados, ils sont approchés par les gangs. Et ils ont du coup ce projet-là en tête. Enfin, c'est comme ça qu'on vit et c'est comme ça qu'on survit. Donc, on y va. Donc, eux, ils luttent dans ce centre-là pour proposer d'autres choses, pour donner un projet professionnel et un espoir aux jeunes. Et on a été très touchés hein, quand on a visité ce centre. Notamment, à gauche, on ne voit pas très bien, mais c'est un jeune qui coiffe. Un autre, parce que le centre remarquait que dans son quartier, c'était quelque chose qui manquait. Donc, ils ont fait venir des coiffeurs professionnels pour apprendre aux jeunes et ils ont ouvert dans les locaux de l'église un barbier, un coin coiffeur. Et il y a des ados comme ça qui ont pu être sortis des griffes des gangs et gagner leur argent et être fiers de ce qu'ils peuvent apporter aussi à leur quartier, à leur communauté. Voilà, donc quand on parle du parrainage, souvent on voit les petits, mais comme ça accompagne vraiment jusqu'à l'âge adulte, on s'est rendu compte que c'était très très global.
Oui, je disais, donc après avoir visité les centres de développement, on est rentré dans les familles. Et là, c'est plus la même parce que je sais pas si vous avez déjà vu sur les tables du CEL, quand dans les stands, on propose des profils d'enfants. Et moi, j'ai toujours été interpellé par des enfants qui sourient pas du tout. Je me disais, c'est bizarre quand même, il fait même la tête, tout ça. Et ben, c'est un peu ce qu'on a vu dans les foyers. le contraste avec les enfants dans les centres de développement, c'était incroyable. Et on monte dans ces quartiers, on nous dit de pas monter trop vite, de pas s'éloigner du groupe parce qu'il y a des gens, des gangs partout. Et puis on visite une famille qui a été évidemment prévenue de notre visite et on venait avec un panier garni pour leur faire un cadeau en arrivant. Et puis la maison, celle-ci c'était une des plus sécures. Il y avait quatre murs en aglo, et puis un sol, et puis un pas de fenêtre. Et je trouvais ça déjà très sombre, très dur. Et les parents qui on voit bien qu'ils font ce qu'ils peuvent pour vous accueillir au mieux, mais c'est pas la joie. C'est vraiment, on voit qu'ils sont en lutte, qu'ils ont faim, qu'ils sont pas bien. Et le papa en plus avait eu un accident de mobylette pour aller au travail. Il s'est fait renverser, clavicule cassée, bras cassé, jambes cassées. Il avait eu déjà des soins, ce qui est déjà très bien. Mais par contre, on leur a posé la question, comment vous faites pour vivre? Parce que lui, il avait son travail à la journée. Donc chaque matin, il va chercher du travail et puis il travaille pour la journée pour ramener ce qu'il faut pour manger à la maison. Et puis là, il m'a dit, c'est ma maman qui nous donne à manger. Et on voit bien que la maman, on imagine qu'elle prend sur son nécessaire pour que eux puissent manger. Ils ont deux enfants.
Juste peut-être préciser, parce que même si c'est des choses qu'on sait, quand on est arrivé chez eux, donc il y a de l'électricité, il n'y a pas d'eau courante. Dans tous les logements où on est allé, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas de toilettes. Donc quand on dit que dans les centres, il y a des toilettes, en fait, c'est déjà une garantie pour les enfants de pouvoir avoir accès à ces soins de base quand ils sont dans les centres. Et puis une seule pièce, quoi. Donc un petit rideau pour cuisiner d'un côté, pour faire un petit peu un minimum de toilettes. Mais c'est vrai que de visiter le domicile, ça donne une réalité plus vraie à des choses qu'on peut avoir en tête en théorie.
Et là, j'ai dit c'était la maison la plus sécure, c'était le mardi. Mais le vendredi, on a visité une maison, entre guillemets. C'était de la tôle ondulée. Et puis, pour faire des fenêtres, c'était des trous. Et la maman qui nous a fait visiter entre guillemets leur maison, elle a dit après on est sorti derrière, il y avait du plastique plein le jardin parce qu'il y a du plastique partout qui vole. Et puis elle nous a dit ici c'est là qu'on se lave et on tend une toile pour pas être vu des voisins, mais faut qu'on se dépêche pour des raisons de sécurité. Donc ils sont vraiment dans des conditions. Ça nous échappe complètement que des gens sur Terre puissent vivre ça, quoi.
Et c'est des quartiers donc comme des favelas, hein. C'est des quartiers non officiels, donc non reconnus par la ville. Et malgré les conditions dans lesquelles ils vivent, ils payent un loyer qui est quand même assez cher. On a pu visiter en dehors de la capitale un autre centre qui, lui, est vraiment au cœur d'une région très très centrée sur l'agriculture. Et une de leurs priorités, c'est de former les familles qui vivent ici à savoir cultiver de janvier à décembre et à être autonomes en fruits et en légumes et en céréales pour leur propre maison. Donc là, ils travaillent avec un jardinier professionnel et qui enseigne, et qui transmet des plants. Ils travaillent avec des plants qui pourront être recultivés d'une année à l'autre pour garder aussi une certaine autonomie au niveau financier. Et voilà. C'est une région extrêmement riche, hein. Il y a du café, il y a du cacao, il y a des avocats, il y a des orangers. Nous, là, quand on se baladait, ça faisait un petit sentiment de paradis, quoi. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent cultiver, mais il faut des moyens et il faut avoir le temps et la possibilité de le faire.
Avec le parrainage plus, il y a une somme supplémentaire. Donc 32 euros, c'est le parrainage, 38 euros. 39 euros, c'est le parrainage plus. Ça permet de financer des projets annexes qui sont pas si annexes que ça, parce que le mur que vous voyez derrière, ça a été financé par les donateurs du sel. Et en fait, ce mur, il est comme les centres de développement sont dans les quartiers les plus dangereux. En fait, sans mur, ils se sont fait cambrioler 8 fois et les enfants sont déjà tombés sur les criminels de manière directe. Donc, ils ont essayé de monter leur mur eux-mêmes comme ils ont pu. Plusieurs fois, ça s'est effondré. Et ils ont demandé un financement à Compassion. Et c'est le sel qu'a financé. Et en fait, moi, j'étais hyper touché dans ce centre parce que Ils nous ont réservé, comme dans tous les centres, mais une place particulière parce que pour eux, c'était une délivrance d'avoir ce mur. Et du coup, ils avaient préparé un panneau pour notre venue, pour qu'on puisse signer en disant que on faisait partie de leur vie, de leur famille. Et en fait, on est le corps de Christ. Donc, ils ont raison. On fait bien partie. On est bien tous solidaires les uns des autres. Et ce mur, moi, j'ai été très touché parce que nous, nos donateurs ont apporté de l'argent. C'est super d'apporter de l'argent. Mais on a vu ils nous ont montré un diaporama de comment ils ont construit le mur. Et je me dis, mais l'argent, c'est rien du tout par rapport à ce qu'ils ont fait, eux. Eux, de jour comme de nuit, on a vu des photos, hein, des mamans qui portent des brouettes avec cinq sacs de ciment en pleine nuit et en plein soleil. Ils ont travaillé pour faire ce mur. Il y a même eu le papa de la femme du pasteur qui est décédé suite à une journée de travail au soleil. Donc, je me dis, waouh. Au début, on a un peu de mal à recevoir l'accueil qui nous réserve en disant c'est vous qui faites beaucoup, c'est pas nous. Et finalement non, on est le corps de Christ et nous on fait avec ce qu'on a aussi, on partage nos moyens et puis eux ils font avec ce qu'ils ont et ils sont reconnaissants parce que sans nous ils peuvent pas faire leur mur et nous sans eux ben on veut pas les aider non plus à aller au bout de ce projet.
Et les quartiers du coup qu'on a visités en fait on se rend compte que les enfants ils ont pas de place pour jouer chez eux. Et ils jouent pas dans les rues parce que les rues sont trop dangereuses. Donc en fait, quand ils arrivent dans le centre, que la porte se referme derrière eux, là ils peuvent jouer, ils peuvent courir, ils peuvent rire. On les a vu faire du foot, etc. Mais c'est une réalité qui existe dans les centres et qui n'existe pas dès qu'on sort des centres. Alors le parrainage, à quoi ça sert au long terme? On a eu l'occasion de rencontrer deux personnes qui ont la trentaine et qui sont d'anciens enfants parrainés du Honduras. Yonis et Saul, et qui ont pu du coup nous partager ce qu'ils ont vécu dans leur famille, comment leur vie a été modifiée quand on leur a appris qu'ils pourraient être parrainés, et comment ça les a aidés à grandir. Ils sont tous les deux maintenant professeurs, parce que voilà, le parrainage a amené vraiment une possibilité d'une situation professionnelle qui est de très bonne qualité. Et ils nous ont raconté ce qu'ils vivaient dans les centres, ce qu'ils vivaient quand ils ouvraient les lettres, ce qu'ils vivaient quand ils envoyaient les lettres et à quel point ça a vraiment changé leur vie. Donc ça aide aussi de se dire, bon, ce qu'on a vu là, ça change concrètement la vie des personnes et quand elles sont adultes, voilà, c'est des personnes qui sont solides, qui ont une place dans la société, qui ont des moyens et qui en plus ont choisi de faire un métier qui vient en soutien et en bénédiction aussi aux autres. On en profite pour dire que Yonis, donc la femme que vous voyez, elle sera invitée pour faire une tournée en France et en Europe. Le CEL invite normalement une fois par an, en France, un ancien enfant parrainé pour qu'il raconte ce que ça lui a permis de vivre. Et donc c'est Yonis qu'on a rencontré qui sera là en fin d'année chez nous en France.
Il y aura un événement spécial. Alors malheureusement, elle viendra pas dans l'Est. Parce que on essaie de varier les endroits où on va en France, mais par contre on va essayer d'organiser un live en vidéo pour que toutes les églises de France puissent voir et même poser des questions, suivre. Je trouve que c'est vraiment passionnant de voir le côté de l'enfant. On raconte souvent l'autre côté et les anciens bénéficiaires du parrainage nous racontent comment eux ont vécu leur temps de parrainage. Et puis, on proposera, d'ailleurs, j'en profite pour le dire, on va essayer de proposer aux églises de France de contacter chaque église pour proposer un Noël un peu spécial. On voudrait proposer quatre courtes vidéos pour démarrer les cultes de l'Avent, pour vivre un peu un Noël autrement, parce qu'on sait que chez nous, le Noël est très centré sur la consommation. Et dire un témoignage un morceau de témoignage de Nice à chaque début de dimanche, avec Dan Lutten aussi qui a été au Kenya pendant que nous on était au Honduras. Dan Lutten est allé au Kenya pour rencontrer son filleul et qui partage à eux deux extrémités du parrainage, le parrain et puis l'enfant parrainé.
On a été touchés bien sûr pendant cette semaine par énormément de choses. Comme l'a dit Jean-Phi, cette espèce de fraternité qui était évidente avec les chrétiens qui nous accueillaient. On a eu beaucoup, beaucoup de témoignages très, très riches Deux des directeurs des centres qu'on a visités étaient eux-mêmes deux anciens enfants parrainés dans le centre. Donc ça montre aussi la valeur, l'historique. Et on avait les larmes, enfin moi en tout cas, j'avais les larmes aux yeux un petit peu tous les jours du matin au soir parce que c'était beau. On était à la fois attristés de cette pauvreté qui est massive et que on ne connaissait pas, on n'a pas eu l'occasion de beaucoup voyager. Moi, je travaille en France dans le social, donc j'ai l'habitude d'accompagner des familles qui sont en situation de précarité, mais la précarité française n'est pas l'extrême pauvreté du Honduras et n'est pas l'extrême pauvreté des autres pays. Donc ça, c'était quand même... ouais, c'était pas facile de le voir, mais on était aussi toujours très encouragés par l'amour des chrétiens, leur énergie, les idées qu'ils ont et puis les projets qu'ils mettent en place et qui fonctionnent. Et c'est trop beau de voir ce qui est possible de faire pour sortir un enfant et sortir une famille de la pauvreté. Et le parrainage est un des accès qui était celui de notre voyage, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à penser et à faire. Et on était plutôt nourris de tous ces projets-là.
Moi, dans les, allez, je vais dire deux rencontres que je garde, c'est Juana. Qui est, en fait, moi, je travaille depuis, je l'ai dit, hein, presque 3 ans que je travaille au SEL, et du coup, moi, je récupère pour vous raconter, enfin pour raconter à ceux qui suivent les réseaux sociaux ou qui suivent les lettres de nouvelles du SEL, eh ben, je récupère les choses que me rapportent mes collègues qui partent en voyage eux pour travailler avec les partenaires locaux chrétiens, et aussi on prend notre service des photos d'enfants parrainés, des témoignages d'histoire, tout ça. Et en fait, je me suis jamais vraiment posé la question de comment ces photos étaient prises, comment les témoignages étaient pris. Et puis là, j'ai rencontré, il y a une personne par pays qui est chargée de prendre des photos, recueillir les témoignages. Et je l'ai rencontré. Et pour moi, je me suis dit, ah super, je vais voir quelqu'un qui fait finalement mon métier, mais dans le pays concerné. Sauf que j'ai été hyper touché parce que, évidemment, c'est pas ce qu'on s'imagine. Chaque fois que vous voyez une photo d'un enfant parrainé, ça veut dire qu'il y a quelqu'un de compassion qui est allé rencontrer cet enfant, ce qui veut dire qu'il est allé dans un endroit probablement dangereux. Et elle, c'était une femme d'une trentaine d'années toute seule. Donc, elle a raconté les dangers qu'elle a déjà vécu. Mais elle dit, moi, j'ai pas de famille, pas de mari, pas d'enfant. Donc, ça va, je continuerai peut-être pas si jamais si j'avais une famille. Et je me suis dit, mais moi, j'utilise son travail, mais je réalise même pas que je peux prier pour les personnes qui prennent ces témoignages et qui prennent ces photos. Donc, ça m'a beaucoup touché. Et puis, deuxième, je ferai très vite, c'est juste Saul, qu'on a vu avec Eunice dans la photo précédente. Cette rencontre, c'était le vendredi soir. Et elle tombait à pic pour moi parce que le matin même, on avait visité un centre de développement où ils nous avaient accueillis, mais... Il n'y avait pas que Manou qui avait les larmes aux yeux. Ils avaient transformé leur salle en éléments français. Donc, tous les plaques d'atelier, c'était comme des plaques de Paris. Ils avaient fait une tour Eiffel de 2,50 m de haut avec les enfants. Ils avaient mis des drapeaux français, etc. Et puis, ils nous avaient fait des petits ateliers où ils nous montraient les activités qu'ils pratiquaient. Et on s'est retrouvés en face de trois petits enfants qui avaient fait des confitures, qui nous ont fait goûter. Et en fait, à la fois, j'étais hyper content qu'ils puissent faire des confitures, mais je me suis dit, mais c'est pas en faisant des confitures qu'ils vont s'en sortir, quoi. À ce moment-là, j'avais pas le recul de me dire, ouais, mais quand ces enfants-là font des confitures, ils sont pas dans la rue, ils sont en train de faire quelque chose, il y a toute une démarche pédagogique. Mais au-delà de ça, je me disais, mais comment ils vont trouver un métier? C'est pas en faisant ils vont pas vendre des confitures. Et ça m'a serré le cœur en me disant, quel est l'avenir de ces enfants que j'ai devant les yeux, quoi. Et le soir, on rencontre Saul et Eunice, et puis ils avaient tous les deux ramené des éléments de leur enfance. Et Saul, il avait ramené des photos, et d'un coup, je vois une photo de lui exactement dans les mêmes conditions que les enfants que j'avais vus le matin. Et lui, il est devenu prof. Et je me suis dit, ah Seigneur, c'est presque comme si tu me disais, t'inquiète pas pour les enfants que t'as vus ce matin, je m'en occupe.